Sur Radio Campus Tours, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne, autant vous l'annoncer tout de suite, Radio Barbara, épisode 2. Et aujourd'hui, dans cette émission où nous allons à nouveau parler de Barbara, je reçois Sébastien Bost. Bonjour Sébastien Bost.
Bonjour.
Alors, vous étiez l'invité prévu la dernière fois et voilà, je vous présente à nouveau mes excuses puisque c'est moi qui n'avait pas envoyé le bon mail au bon moment. Du coup, malheureusement, j'ai accusé lâchement les grèves des transports, mais non, c'était une erreur de ma part, donc je vous prie de m'en excuser.
Vous êtes tout excusé, les rendez-vous manqués donnent encore plus envie de se retrouver.
Ah voilà, bon alors je suis flattée, tant mieux. Donc nous allons parler aujourd'hui, entre autres, de votre thèse, puisque vous avez soutenu très récemment une thèse sur Barbara à l'Université de Tours. Est-ce que vous voulez nous rappeler le titre de votre thèse ?
Alors le titre de la thèse, c'est « La morsure et la caresse, une esthétique de la déchirure ».
Voilà, et avec moi dans ce studio de passionnés de Barbara, bonjour, bonjour.
Antoine.
Bonjour Antoine, c'est Antoine notre stagiaire ici à Radio Campus, donc Antoine en Master 1 Médiation des Arts du Spectacle.
Exactement, et du coup je suis là dans le but aussi de mon stage sur le queer et Barbara, oui. On a du bon sujet.
Oui, je crois.
Et il me semble que tu as pu assister peut-être aussi à un cours de Sébastien Bost.
J'ai pu assister à plusieurs cours de Sébastien Bost, dont le cours sur Barbara et les comédies musicales. Et c'est aussi un grand passionné de littérature, notamment de la littérature du XXe siècle, le cours que j'ai suivi.
Voilà, et alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, dans ce studio, il se trouve que nous avons une autre passionnée de Barbara. Bonjour Solène.
Bonjour Mélissa.
Alors, Solène, c'est notre vice-présidente et c'est aussi l'animatrice phare de l'émission Plan Séquence, l'émission de cinéma. Et, chers auditeurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il se trouve que Solène joue de la guitare et chante. Et je crois que tu avais prévu plus tard dans cette émission de...
Tu m'as proposé gentiment si je voulais prendre ma guitare ce jour et chanter une chanson de Barbara. Je dis, bah ouais, ok.
Voilà, donc on aura la chance. Ouais,
amatrice, hein, évidemment, hein, je précise, mais vous l'entendrez tout à l'heure. Hein.
Mais bon, c'est beau d'être
amateur. C'est pas mon métier, c'est ça que je veux dire.
Voilà, donc pour en revenir à cette thèse que j'ai la chance de tenir là entre mes mains, Sébastien Bost, est-ce que vous voulez peut-être nous dire comment est né ce projet de thèse ?
Oh, ce projet de thèse, il est très ancien, il s'enracine dans une émotion très profonde que comme des milliers d'autres, j'ai ressenti en découvrant Barbara il y a maintenant plus de 20 ans et en fréquentant son répertoire et son œuvre au quotidien. Et à un moment donné, s'est imposé à moi la nécessité d'écrire sur elle pour pouvoir mettre des mots sur les émotions que j'éprouvais, sur ce que je pensais avoir compris de son travail de création. C'était aussi une façon pour moi de rendre un petit peu ce qu'elle m'avait donné, de lui dire merci, et de la faire partager surtout au plus grand nombre, parce que je crois qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de considérer Barbara comme une artiste bien vivante, grâce à son œuvre très puissante, et non pas comme un objet de musée à poser sur une étagère, ce serait terrible. Donc le but de la thèse, c'était aussi de pouvoir la transmettre, la faire découvrir.
Alors comment ça se passe quand on a cet amour pour une artiste et qu'on se dit je veux en faire une thèse, je veux en faire un travail universitaire. Alors comment ça se passe en fait, par quelles étapes on chemine, comment oui. Pour aboutir à ce travail qu'on présente.
Oui, c'est très difficile parce que d'abord il y avait presque un cas de conscience parce que je sais très bien que Barbara... doit ou bien être furieuse ou bien rigoler de travaux universitaires qui lui sont consacrés parce que le monde de l'université n'est pas son univers premier. C'est une enfant de la balle. C'est une femme, c'est une saltimbanque, c'est une nomade. Elle n'a pas eu la chance d'aller beaucoup à l'école parce que c'était une petite enfant au cœur des années 30 et une adolescente au cœur des années 40. Donc déjà, il y avait un cas de conscience. Est-ce que c'est la meilleure façon de parler d'elle? Est-ce que la meilleure façon de parler d'elle, ce ne serait pas de la chanter, de faire un disque, de la reprendre au piano? Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de parler de Barbara? Donc, une fois ce cas de conscience réglé, il n'y avait qu'une seule solution, c'est de partir de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, et d'entrer dans son univers de création. De ne pas du tout plaquer des théories, d'études, on emprunte à je ne sais quel théoricien de la littérature, de la poésie, de la musique, et de faire rentrer Barbara dans ces cases-là, mais de partir de ce qu'elle dit, de ce qu'elle chante, de la façon dont elle procède, de partir aussi des émotions que l'on éprouve en l'écoutant, et de théoriser à partir de là. Moi, c'est ma façon, c'est ma méthode scientifique, si vous voulez. Je ne pars pas d'une réflexion ou d'une théorie, je pars des émotions. Des émotions que Barbara met en jeu dans ses textes et ses musiques, des émotions qu'elle nous fait éprouver, que nous ressentons encore aujourd'hui, 25 ans après sa mort. Et je théorise à partir de nos émotions.
Voilà, mais ce travail aussi, il n'est pas complètement hors sol, hein, on peut le dire. Vous êtes enseignant aussi, vous êtes professeur de littérature.
Oui.
Donc vous avez quand même... c'est aussi votre métier, la démarche intellectuelle, la transmission. Donc,
Oui. Je voulais aussi, dans cette démarche de transmission, je voulais donner un aspect un peu complet de l'œuvre de Barbara, parce qu'on la réduit trop souvent... à une femme qui chante des chansons tristes, etc., une intellectuelle ou je sais pas quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir que sa grande modernité, c'est que c'est avec Anne Sylvestre, la première femme auteur, compositeur, interprète. Elle fait tout, Barbara, elle écrit ses textes, elle compose ses musiques, elle intervient dans la scénographie de ses spectacles, elle règle les lumières, elle est à la console pour la sonorisation, elle intervient dans le choix de ses costumes... Elle a un rapport au public très très particulier et très personnel. Donc il y a une œuvre qui se construit où elle a les manettes sur tout. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que chaque aspect de son œuvre, texte, musique, scène, voix, tout est cohérent. Il y a une immense cohérence. Et donc c'était ça aussi à travers la thèse, c'était de dire je ne vais pas étudier les textes de Barbara. Je vais étudier l'œuvre de Barbara, qui dépasse... des textes qui sont déjà sublimes. Mais il faut aussi étudier la femme qu'elle était, ses engagements, ses prises de position, sa conception même du métier d'artiste, qui est quand même phénoménale. Sa façon de procéder pour faire de la musique, car c'est une autodidacte. Elle ne connaissait pas le solfège, elle n'avait pas appris la musique. Elle se débrouillait de façon très autodidacte. Elle a créé, elle a inventé ses propres processus de création, puisqu'elle ne les avait pas appris. Elle n'avait pas appris. C'est formidable, ça lui a donné une liberté géniale. C'était ça qui était intéressant. C'est de faire un parcours de la femme et de l'œuvre.
Je crois que ça réagit en face de moi dans le studio. Alors, Solène, est-ce que tu es... Je vois que tu t'as réagi peut-être sur Anne Sylvestre. Est-ce que toi, tu écoutes aussi Anne Sylvestre?
Ouais.
Est-ce que tu trouves qu'il y a, comme le dit Sébastien Bost, peut-être quelque chose à mettre en lien?
Bah après, effectivement, ce sont deux femmes qui jouent la musique, qui écrivent leurs textes, et aussi bien la musique, c'est dans ce sens-là, effectivement. Et puis même dans les thématiques, il y a le répertoire de Nan Sylvestre est immense aussi, comme celui de Barbara Lay, et il y a beaucoup de thématiques qui se ressemblent quand on connaît ces deux répertoires, effectivement. Oui.
Elles ont d'ailleurs des liens, parce que elles se connaissaient, elles ont commencé dans les cabarets de la Rive Gauche, toutes les deux... au début des années 60, et Marie Schex, qui est la sœur d'Anne Sylvestre, a été la secrétaire de Barbara pendant 3 ans à la fin des années 60, donc il y avait des liens. C'est très important d'en parler, parce que Barbara se présentait comme une femme qui chante. Elle disait « je suis une femme qui chante ». Ce qui prime d'abord, c'est « je suis une femme ». C'est-à-dire, je suis pas... Ce qui m'intéresse, c'est pas d'être auteur, compositeur, interprète, c'est je suis une femme. Je m'exprime en tant que femme. Et je chante. C'est-à-dire, je ne fais pas simplement de la communication écrite, je suis en performance. Et physiquement, je suis dans l'humain, dans le côté physique. Et Anne Sylvestre, bien sûr, a la même démarche.
Oui, quand on la voit, enfin moi j'ai pas eu la chance de voir Barbara, voilà, j'étais trop jeune quand elle est partie, mais par contre j'ai eu la chance de voir Anne Sylvestre sur scène. Effectivement, on sent que même son corps, elle est totalement investie dans ce qu'elle chante et dans ce qu'elle, et du coup l'émotion elle est d'autant plus là.
Ce sont des artistes complets.
Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, Antoine?
Non, je suis tout à fait d'accord, mais ce que j'aime beaucoup dans Barbara, c'est en fait l'image, justement cette image de femme qu'on retrouve de plus en plus dans notre à notre époque, enfin dans maintenant, où la place de la femme essaye de s'imposer face à la place de l'homme, et on est voilà, je suis une femme, je suis j'ai aussi à parler, j'ai une place dans cette société, laissez-la moi. Et Barbara, c'était je veux parler.
C'est très important parce que Barbara a commencé pendant sa carrière, pendant à peu près une dizaine d'années, elle a chanté les chansons des autres. Elle a d'abord été une interprète, d'ailleurs elle a toujours dit « je suis restée une interprète toute ma vie hein. ». Et à un moment donné, elle a commencé à écrire ses propres textes, ses propres musiques, sans avouer qu'elle en était l'auteur. Et puis ensuite, elle a fini quand même par le dire. Et quand on lui a posé la question « mais comment vous est venue l'envie d'écrire ou le besoin d'écrire ?», elle a vraiment revendiqué cet aspect. Elle a dit « j'ai ressenti le besoin et la nécessité d'écrire parce que j'avais des choses à dire en tant que femme. » Avec un regard, une sensibilité, une vie différente, je ne veux pas laisser aux hommes le soin de seul manier les mots. J'ai aussi des choses à dire. Donc elle l'a aussi revendiqué, c'est un bien grand mot, mais elle l'a souligné comme ça. Oui. Et vous savez, bon, Barbara, je disais tout à l'heure, c'est une artiste complète. Elle a été donc jusqu'à se nommer, hein, puisque Barbara n'est pas un nom d'auteur, enfin un nom d'artiste imposé par un impresario. Elle s'est choisie elle-même ce domaine. Et évidemment, c'est un nom très très lourd de sens. Elle faisait peut-être référence à une de ses aïeules qui s'appelait Varvara, parce qu'elle avait des ancêtres maternels qui étaient des saltimbanques, qui avaient fui les persécutions des juifs en Moldavie, et puis qui avaient été artistes itinérants sur les routes. Donc déjà, en s'appelant Barbara et en faisant référence à cette aïeule, elle indiquait une sorte de catégorie d'artiste. Elle dit, voilà, moi je suis dans la roulotte, quoi. Moi j'y vais et je suis dans la caravane et je suis tout le temps sur les routes. Barbara, elle pouvait chanter jusqu'à 250 ou 300 soirs par an. Elle a fait très peu de disques en studio, c'était pas du tout une femme de studio. Mais dans Barbara, ce qui est plus important, c'est que Barbara, c'est la barbare. Mais le mot barbare au sens étymologique, c'est-à-dire celle qui ne dit pas les mêmes choses que les autres, l'anticonformiste si vous voulez, celle qui a une indépendance d'esprit, celle qui casse les codes, celle qui a ses propres lois, celle qui ne suit que ses propres règles. Donc une affirmation d'indépendance, d'autorité. Un besoin de s'affirmer en tant que femme et en tant qu'artiste. C'est un pseudonyme génial.
Mais comment dire, parce que
c'est un nom de scène, c'est pas un pseudonyme, pardon. C'est un nom de scène.
Ah, est-ce que vous voulez préciser la différence d'ailleurs?
Un pseudonyme, ce serait un faux nom. Ce serait un nom d'emprunt pour faire joli, ce serait terrible. Non, chez Barbara, le nom de scène est un nom performatif, c'est-à-dire c'est un nom qui la révèle plus que... Plus que n'importe quoi, encore que son nom d'état civil, c'est intéressant parce que son état civil, elle s'appelle Monique Cerf, donc le cerf comme la servitude, et donc elle passe de la servitude à la barbare, celle qui s'émancipe, en gros, c'est tout à fait étonnant, hein. Celle qui s'affranchit des lois, ou qui s'affranchit d'un système, c'est tout à fait étonnant. Non, Barbara est un nom de scène, c'est pas un pseudonyme.
Mais d'ailleurs, c'est très intéressant cette idée de délibérer, de dire j'incarne sur scène et il y a une idée peut-être aussi de renaissance en se renommant.
Oui.
Je n'irai pas jusqu'à dire de se réparer, mais enfin, en tout cas de se recréer soi-même.
Oui. Bon, ça c'est un peu l'idée effectivement de la thèse, même s'il ne faut pas se méprendre sur mon projet. Hein. Je l'ai intitulé Une esthétique de la déchirure. Donc. J'ai considéré, c'est vrai que bon, Barbara emploie ce mot tout le temps dans ses chansons, dans ses interviews, dans ses textes. Donc j'ai voulu montrer comment ce concept de déchirure pouvait être un élément explicatif de toute son œuvre. Et comment effectivement, à travers sa création, elle essaie de réparer notamment des déchirures de vie. Mais alors La notion de renaissance, oui, c'est toute une partie de ma thèse où j'explique que justement elle organise sa gestuelle en scène comme un cérémonial de naissance, un rituel de naissance. Hein. Mais surtout, le fait de se réparer, là j'y tiens beaucoup, il faut faire très attention parce que ça nous emmène tout de suite vers le domaine de la psychologie, ou les théories de la résilience proposées par Boris Cyrulnik, qui sont très intéressantes, hein, et qui prend d'ailleurs, Boris Cyrulnik prend Barbara en exemple, en paradigme un peu d'artiste résiliente. Moi, c'était pas du tout mon propos. Hein. Moi, j'ai bien fait un travail d'esthétique, un travail artistique. Et d'ailleurs, ce que je montre, c'est que la résilience chez Barbara, elle n'est pas si évidente que ça, parce que dans la résilience, il y a l'idée, bon, j'espère ne pas trop galvauder une notion complexe et riche, hein. Il y a l'idée qu'on essaie d'évacuer une souffrance, on la surmonte et on la dépasse, on l'évacue et on se réalise malgré ce qui nous est arrivé. Et Barbara, c'est pas du tout ça. Elle se réalise avec, et elle ne l'évacue jamais, elle ne cherche jamais à évacuer ses épreuves de vie. Ses épreuves de vie, on les connaît, hein. Une petite fille juive qui a échappé à la mort, au trac nazi. C'est une petite fille aussi qui a subi des violences de la part de son père, qui n'a pas pu lui pardonner sur son lit de mort parce qu'elle n'a pas été prévenue à temps de son décès. C'est une femme aussi qui a choisi de sacrifier ses amours pour pouvoir se consacrer à la scène. À un moment donné de sa carrière, perdu la voix, qui a eu des problèmes de santé. Elle a eu, comme beaucoup de personnes, elle a connu des drames, elle a connu des épreuves, même si les siennes ne sont quand même pas celles de tout un chacun. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle n'a jamais cherché à s'en débarrasser, ni à les évacuer, elle a cherché à les sublimer, c'est-à-dire à les convertir en quelque chose de non seulement acceptable, mais de beau, de riche. Et par exemple, c'est la chanson Le mal de vivre, c'est cette alchimie que j'ai voulu décrire dans ma thèse. Ce qui est très beau par exemple, c'est Barbara, elle nomme les choses. Alors elle dit par exemple, ça ne prévient pas, ça arrive, ça vient de loin, le mal de vivre. Et il y en a qui n'en sont pas revenus. Vous voyez, les choses sont dites en face, les choses sont nommées, on ne les esquive pas. Mais la chanson se terminera quand même par « Et un matin, ça arrive, la joie de vivre ». Il y aura la capacité, même ponctuellement, de surmonter le mal de vivre pour être heureux malgré tout. Et comment on fait pour passer du mal de vivre à la joie de vivre? On convertit notre douleur. Le texte dit des choses magnifiques, il dit on peut le mettre en bandoulière, le mal de vivre, on peut le mettre en bandoulière. Ou comme un bijou à la main, comme une fleur à la boutonnière, juste à la pointe du sein. Quand même formidable, c'est-à-dire le mal de vivre, c'est une pointe. Il va vous déchirer le cœur, mais c'est aussi un bijou. Et on peut le mettre, on peut l'exhiber fièrement comme une fleur à la boutonnière. On peut en faire quelque chose. Vos drames seront vos richesses, ne les évacuez pas. Sinon, vous vous annulez vous-même. Ça qui est très beau.
Ça fait penser à Baudelaire aussi.
Mais oui, oui, elle était très inspirée par Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Mm. Oui, c'est la conversion de la boue en or. Oui, oui, c'est cette alchimie très particulière. De même, elle l'a fait aussi. Elle dit, je perds ma voix, hein, dans les années 80. Elle a souffert d'une dysphonie, donc d'une corde vocale qui était détendue. En plus, c'était une personne aussi asthmatique et puis qui ne s'économisait pas parce qu'elle chantait tout le temps. Et elle a choisi de chanter pratiquement sans voix. Elle dit, tant pis, je vais faire avec. Elle a suivi une rééducation, elle a fait les choses sérieusement, mais elle a dit, tant pis, je ne vais pas tricher, je pourrais tricher avec de la technique, de la sonorisation, je pourrais m'arrêter. Non, je vais continuer. Et puis je vais me présenter comme ça, dans le dénuement de ma voix fragile. Et alors pour les vrais, les purs, les 100% Barbara, c'est sûr que c'est la voix la plus extraordinaire. Elle arrive avec toutes ses fêlures, toutes ses écorchures, elle met tout sur la table et il y a une puissance émotionnelle, puisqu'elle arrive à faire non seulement d'un souffle un son, mais elle arrive même à faire d'un silence un son. Alors là, c'est apothéose, c'est le grand art, si vous voulez. Et elle n'a jamais eu autant de spectateurs qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens ont bien compris sa démarche. Ils venaient pas pour entendre Céline Dion. Ils venaient pour entendre une femme qui chantait différemment, parce qu'elle avait une voix différente, et qui allait tout emporter sur son passage.
Mais alors ça lui donne peut-être pas le... Enfin, je crois pas qu'elle ait cherché à aucun moment à être une star ou une idole.
Non.
Mais en tout cas, malgré tout, elle a peut-être une position de rôle modèle, en fait, de dire qu'il y a plein de gens, finalement, qui peuvent pas s'identifier forcément, mais en tout cas se sentir personnellement touchés par ce parcours.
Oui. Alors, un modèle, elle aimerait pas tellement ça, mais une référence, je dirais... un exemple, oui, bien sûr. Bah, vous savez, Barbara. Non, alors s'il y a bien une personne qui n'était pas une star, c'est bien Barbara. Et c'est aussi ça dans la thèse que j'ai voulu faire, c'est un petit peu battre en brèche certaines idées reçues. Alors il y a une idée reçue qui serait que Barbara, bon, bah, c'est vraiment la diva, un télo inaccessible. Non, mais Barbara, c'est pas possible, quoi. Bon, c'est tout le contraire. S'il y a une artiste, je ne sais pas s'il y a une artiste plus accessible que Barbara. Enfin, je veux dire, on pouvait l'approcher, lui parler, elle restait des heures à la fin de son spectacle pour bavarder avec les gens, demander des nouvelles, signer des autographes. Vous vous rendez compte qu'elle se rendait quand même dans les hôpitaux parisiens, à l'hôpital Cochin, pour aller au chevet des malades du sida, elle restait avec eux des heures, elle allait dans les prisons, à Montluc, au Beaumet, elle chantait pour les détenus, elle avait une ligne de téléphone chez elle qui était spécialement réservée à tous ceux qui avaient son numéro de téléphone et elle le donnait facilement et qui se sentait mal et qui avait besoin d'un réconfort, on pouvait l'appeler jour et nuit. Mais s'il y a bien une artiste qui n'était pas inaccessible, c'était elle, mais évidemment elle se protégeait quand même, réservée. Elle n'était pas 24 heures sur 24 au milieu de la rue à répondre à tout le monde, bien sûr. Mais oui, elle est devenue une référence parce que, si vous voulez, c'est très important, et encore aujourd'hui, vous savez, c'est parce qu'elle a dit que, elle a montré que même avec des failles, même avec des souffrances, non seulement on pouvait s'en sortir, mais qu'on pouvait avoir une vie formidable. Et si vous voulez, bon, moi je connais des gens, mais j'en fais partie. C'est vrai que, bon, bah, quand on a compris Barbara ou quand on est rentré dans son univers, on a l'impression qu'il peut plus rien nous. On se dit, de toute façon, même quand je serai tout en bas, j'aurai la clé. Elle m'a montré une disposition d'esprit. J'aurai la clé, je continuerai. Voilà. J'ai peur, mais j'avance. Hein. C'est la devise de Barbara. J'ai peur, mais j'avance. Voilà, il faut recommencer sa vie chaque jour. J'ai peur, mais j'avance.
Il y a un côté, comment dire, bon, faut pas exagérer non plus, mais ça fait penser peut-être à cet investissement, pas une dame patronesse, mais enfin à quelqu'un qui se sacrifie aussi un peu, qui donne en fait.
Oui.
Qui...
oui, mais alors là c'est pareil, c'était une autre, c'est vrai. Elle a tout donné à son public. Parce que c'est aussi grâce à son public qu'elle s'est entièrement réparée. Moi, elle a toujours dit c'est le public qui m'a faite, c'est le public qui m'a accouchée. Là encore, elle parle de naissance. Hein, qui, voilà, sans le public, je ne suis rien. Et alors, dame patronesse, alors oui, il faut faire attention de ne pas tomber dans une deuxième idée reçue qui serait, parce que je l'ai beaucoup entendu, ça, qui est que... Oh, Barbara, elle a un pouvoir hypnotique, c'est pratiquement un gourou qui encellerait les foules, quoi. Alors, moi, ce que je montre dans la thèse, c'est que non, c'est pas du tout un gourou, ni une sorcière, ni quelqu'un qui nous hypnotise ou qui nous... Parce que si c'était un gourou, si c'était une hypnotise, ce serait uniquement un charisme, une attitude et une influence d'esprit. Alors que ce que je montre, en fait, c'est un travail artistique. C'est-à-dire, ces textes sont écrits, il y a une écriture qui favorise l'identification à elle ou cette énergie qu'elle essaie de nous transmettre. Il y a une écriture musicale consciemment élaborée, favorise. Il y a une gestuelle en scène. Voilà, c'est pas simplement une aura presque magique, pas du tout. C'est un travail d'artiste.
L'idée de se recomposer. Alors je me tourne vers Solène, puisque tu es venue munie d'une guitare.
Oui.
Et il me semble qu'il serait opportun qu'on entende un peu une musique de Barbara.
Tout de suite là maintenant ?
Bah oui, sauf si quelqu'un s'y oppose farouchement.
Qu'un auditeur appelle et...
Voilà. Non, surtout pas. Voilà. Donc voilà, je te laisse... de préparer et puis voilà. Alors qu'est-ce que tu veux nous
c'est la chanson à chaque fois que je fais quand je fais Barbara, enfin il y en a trois mais c'est celle-là la plus simple parce que vous verrez je suis pas guitariste et c'est peut-être la première chanson que j'ai entendue parce que c'est une de ses plus connues et la première du coup que j'ai jouée quand j'ai vraiment appris la guitare, donc c'est Dis quand reviendras-tu.
Et alors c'était quand cette découverte de Barbara?
Ah mais c'est vieux, hein. Je suis vieille maintenant. Non mais je sais pas, j'ai dû la connaître, je sais pas, j'avais un peu avant 20 ans, je sais pas, 17, 18 ans, un truc comme ça. Et, comment je sais plus, là je peux, non c'est flou, mais après c'est vrai qu'avec internet du coup ça a été assez rapide. Je pense que mon grand-père s'y aimait bien et en fait ça vient de mon grand-père tout simplement aussi. Mais du coup il y avait Dis quand reviendras-tu, et puis après moi j'aime beaucoup mon enfance, et puis Vienne, enfin il y en a plein en fait, même si à mon avis il y en a plein que je connais pas, mais voilà c'est plus connu, on va dire, qui me sont parvenus en premier. Et après non, il y a une chanson aussi moi qui vraiment aussi m'avait bouleversée, c'était son écriture, on parlait tout à l'heure, vous parliez de du mal de vivre, mais la solitude aussi je la trouve très belle au niveau de l'écriture, assez précise, et mais toutes ces chansons en fait avec des termes extrêmement précis et qui savent toucher, et puis bon son interprétation, hein, voilà, hein, elle savait toucher la corde sensible, c'est pour ça qu'on est ému. Voilà, je pense que je n'ai pas du tout répondu à ta question, mais
non
voilà.
Mais c'est pas grave.
Mais oui j'aime bien Barbara comme j'aime bien Sylvestre. Mais après j'aurais une question du coup à poser.
Non, bah pose-la maintenant, parce que là, tu fais voilà. Du suspense.
Non, mais en fait, moi, j'ai une question, c'est, dans votre thèse, est-ce que vous avez rencontré des... On parlait de références, en fait, tout à l'heure. Est-ce que, dans la jeune génération de chanteuses, de chanteurs, il y a des gens, voilà, qui vraiment se réclament ouvertement dans la droite lignée de Barbara? Il y a des noms qui me viennent en tête, mais est-ce que vous en avez rencontré?
Alors, se réclamer vraiment droite...
Enfin, pas se réclamer, c'est pas
Barbara,
le bon terme, mais...
Oui,
en tout cas, est-ce que ouais, des gens qui ont vraiment une influence et qui ont beaucoup écouté Barbara et du coup qui portent en exemple.
Bon, alors ça dépend ce qu'on appelle jeune génération, mais bon, il y a la génération, la grande Sophie, Jeanne Chéral,
voilà,
Clarica, etc. Un peu plus jeune, il y a surtout Raphaël Lanader hein, qui chante sous le pseudonyme de Elle, qui en réclame beaucoup, mais il y a aussi, il y a un éclectisme, par exemple, je sais pas, Véronique Sanson, Zazie, chez les plus anciens, mais c'est sûr, il y a beaucoup d'hommes aussi qui se réclament de Barbara, parce que quand vous écoutez par exemple Calogero en scène ou Vincent Delerme, il s'adresse à elle par exemple. Et oui, il y a beaucoup Grand Corps Malade par exemple, hein, le slammer aussi, qui la cite dans plusieurs de ses textes. Et moi j'ai eu cette joie immense, ce cadeau que. Quelques-uns de mes anciens élèves forment un groupe pour chanter et produire un disque sur Barbara. Ils ne l'ont pas fait, bien sûr, uniquement pour me faire plaisir. Non, mais ça m'a beaucoup touché. Notamment une jeune élève qui s'appelait Solène. Et qui me dit, écoutez, vous savez, bon, je suis obligé de vous dire un petit secret, mais bon, pendant toute l'année... Pour toutes les lectures que vous nous avez conseillées, bon, en fait, j'en ai lu aucune. Je suis obligé de vous l'avouer. Mais en revanche, quand vous nous avez parlé de Barbara, là, c'est vrai que ça a fait tilt. Et en gros, plutôt que de lire vos livres, j'ai passé toutes mes soirées à écouter Barbara et j'ai envie de devenir artiste et de la chanter à mon tour. J'ai dit, bon, alors, ouais. Vous avez eu raison. C'est bien.
Chouette.
Alors, cette chanson, est-ce que tu as trouvé une nouvelle stratégie dilatoire?
Non, je vais la faire, t'inquiète pas.
Alors, j'éteins nos micros, on se tait et on te laisse la place.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour, le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et déambulerons dans les rues de Paris. Mais dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, et que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire comme de la rengaine. Je vais, je viens, je vis, je tourne et je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, car j'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. Mais dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, et que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer d'amour, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux les plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Mais dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, et que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Voilà. Voilà. Eh bien, merci Solène pour cette...
Vous pouvez me retrouver du coup tous les...
quelle interprétation, franchement, j'en ai les larmes aux yeux.
Ah, merci.
Ça me touche beaucoup que vous chantiez cette chanson parce que vous avez une façon de vous la réapproprier qui est vraiment touchante.
Ah, je vous remercie beaucoup.
Et c'est pas n'importe quelle chanson quand même, hein, dit quand reviendras-tu. C'est une des premières que Barbara a écrites. Et y a tout dans cette chanson. C'est justement la chanson de femme. Elle commence par dire, bah oui, ben, elle s'adresse à l'homme qu'elle aime mais qui n'est pas là. Bon, ben, tu m'as dit que tu revenais, mais j'attends, quoi. Donc c'est un peu la femme. Elle joue avec les codes de la chanson réaliste. La femme un petit peu, pas soumise, mais enfin, disons, dépendante. Après, elle décrit les symptômes du mal d'amour, hein. Je tangue et je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je tourne, je me traîne, je suis déchiré là encore, hein, par cet amour qui me dévore, tu me fais souffrir à ne pas être là. Et puis à la fin, c'est, ouais, bah, j'ai pas la vertu des femmes de marin, donc je vais aller voir ailleurs, hein, donc je vais reprendre ma vie en main. Donc elle passe par toutes les étapes, en fait, c'est comme une éclosion, comme une renaissance. Et puis il y a le côté polar un peu chez Barbara, là. Parce que pourquoi est-ce que ces chansons nous touchent, nous captivent, c'est parce qu'elle a une écriture très très proche du scénario à suspense. La plupart des chansons de Barbara commencent par on met en place un décor. Vous savez, c'est un beau jour. Il pleut sur le grand bassin du château. Alors déjà, en deux vers, ça y est, on est dans une ambiance totalement. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main. J'ai le cœur chagrin, ça y est, hein. Trois phrases ont suivi. Une fois que le décor est planté, il y a une écriture à suspense. Il se passe que... Dis quand reviendras-tu? Je t'attends. vas-tu revenir? Et si tu reviens pas, alors qu'est-ce que je fais? Je me suicide ou je fais autre chose? Donc, quand elle va voir son père, c'est madame, soyez au rendez-vous, faites vite, il y a peu d'espoir, la demande. Ou la solitude, comme vous disiez tout à l'heure, hein. Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte. La voici, la voilà. Mais qui est? Yes, il faut attendre la fin de la chanson. Donc il y a comme ça une espèce de montée, comme une écriture à suspense. Et puis alors, il y a une révélation. Voilà. En Nantes, c'est... il était revenu, ce vagabond se disparut, puis à un moment donné, mon père. Ou alors la mort. La solitude. Dans la mort, c'est qui est cette femme qui marche dans les... C'est la mort. D'un seul coup, il y a une révélation qui vous pétrifie. Ou alors, j'ai eu tort, je suis revenu. La ville au loin perdu, passé. Dans mon enfance, elle recrée le décor. Et puis à un moment donné, paf, arrive la révélation. Il ne faut jamais revenir, t'en cacher des souvenirs, t'en bénis de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance, pire, l'enfance nous déchire. Il y a comme ça. Alors donc du coup, on est embarqué. C'est pour ça que... Ça me fait vraiment rire quand je rencontre les gens qui me disent « Quand on écoute Barbara, on est addict. » Bah bien sûr, puisque l'écriture littéraire comme musicale nous emmène, dès qu'on a commencé les 10 premières secondes, ça nous emmène. Comme ça, on est obligé d'aller jusqu'à la fin. Parce que la musique, c'est pareil. Elle procède par escalier. Et... Alors, on est obligé de... Ah oui, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et puis la dernière chose qui nous embarque aussi, c'est évidemment l'interprétation, puisqu'elle a trouvé le truc génial, c'est l'interprétation murmurée. Barbara, c'est une murmureuse, donc elle est héritière des chansons réalistes qui étaient dans la grande déclamation, et elle éclot au moment du rock et des yéyés, où on privilégie les guitares électriques, les sonorités et la puissance vocale. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invente ou elle généralise ce qu'on appelle le near voice. C'est-à-dire, elle chante très 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 près du micro et elle n'élimine aucune scorie, impureté ou maladresse. On entend tout chez Barbara. On entend le souffle, on entend les claquements de la sur les dents. Comme si elle nous murmurait au creux de l'oreille. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression... de l'avoir en nous, on l'a en nous, parce que sa façon de chanter est conçue comme ça. Donc elle nous embarque par un texte, par une musique et par une voix qui nous est murmurée comme ça au creux de l'oreille.
Donc ça veut dire, je reviens un peu sur ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est qu'il y a un canevas narratif dans les chansons de Barbara.
Toujours, oui.
C'est ça.
Oui, très très souvent. Quand je dis toujours, bon, il y a bien sûr des exceptions, elle n'a pas écrit 150 fois la même chanson, mais quand même. Oui, Barbara, c'est une grande conteuse, elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires en s'inspirant de choses qu'elle a vécues ou dont elle a été témoin, ou des états d'âme aussi. Elle fonctionne aussi beaucoup sur des états d'âme et elle conçoit une histoire autour. Ah oui, bien sûr, elle a toujours un récit.
Et alors cette idée de, comment dire, ce goût pour la narration, pour le fait de conter quelque chose, est-ce que ça peut être attaché à une culture ou, parce oui. que vous disiez qu'elle avait quand même une histoire particulière, donc est-ce qu'il y a un lien peut-être?
C'est surtout que ça l'a raccroché à sa culture maternelle, donc ses fameux saltimbanques, et notamment sa grand-mère qui... ayant fui donc la Moldavie et la Russie, réfugié à Paris, n'avait de cesse, quand elle se voyait le soir, ou etc., de lui raconter les histoires, les légendes, les contes de Russie, les contes de Moldavie, pour la rattacher à une origine. Et elle parle de sa grand-mère dans ses mémoires comme d'un personnage un peu fabuleux qui lui racontait des histoires de loups, des histoires d'enfants égarés dans la steppe, des histoires de funambules qui dansent sur des cordes. Et c'est ça aussi qu'elle a voulu transmettre, c'est ce goût de la narration, des récits. Ça lui venait de sa grand-mère, personnage fondamental pour elle.
Est-ce qu'on peut dire alors aussi que Barbara, elle chante avec ses morts? Est-ce que ça vous semble juste?
Oui. Ah oui, elle chante avec ses morts, elle l'a toujours dit d'ailleurs, elle dit « je chante avec mes morts, je leur parle, je chante pour qu'ils soient bien ». Mais à un petit détail près, il n'en est pas un, c'est que pour Barbara, mais les morts sont pas morts. Les morts sont là. Alors ils sont pas physiquement, ou on peut pas les voir, mais les morts sont là. Ils continuent de nous accompagner, on les porte en nous. Donc de toute façon, ils nous regardent, ils veillent sur nous, ils nous transmettent encore, nous bénéficions encore des énergies dégagées de leur vivant. Et alors, évidemment, là je ne peux pas m'empêcher de... Enfin, vous l'avez compris depuis le début de l'émission, que, évidemment, c'est exactement l'impression que l'on a aujourd'hui encore à propos de Barbara. Moi, on ne peut pas parler de... Mais on peut le dire de beaucoup d'artistes, mais on peut pas parler de Barbara comme quelqu'un qui est mort, c'est pas possible. Quelque chose qui n'est pas... Alors, d'autant plus pour moi, puisque moi j'ai appris l'existence de Barbara le jour où à la télévision on m'a appris sa mort. Parce que je la connaissais pas avant. Donc pour moi elle est née le jour où elle est morte, donc elle mourra jamais déjà. Elle est éternelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la puissance de création, la richesse de l'œuvre d'une personne ou d'une artiste telle que Barbara, mais je pourrais dire la même chose de Mozart, de Jean-Sébastien Bach, de Van Gogh, de... Vous croyez que Baudelaire est mort? Vous croyez que Mozart est mort? Mais c'est pas possible. On écoute leur musique, on lit leurs textes. Barbara, elle chante, elle a encore sa voix vivante, on met un disque, elle est là. J'allais dire, elle est même plus que jamais vivante et présente. Dans les sujets de société, dans les débats d'actualité, elle est plus que jamais présente. Et elle est plus que jamais indispensable. Et je connais des gens, je peux vous assurer que s'ils n'étaient pas certains de cette présence bien vivante de Barbara, mais pas comme quelqu'un qui la verrait apparaître au pied de son lit, ça c'est ridicule. Non, comme une énergie qui est là. Les énergies des artistes, ils ont cette capacité extraordinaire, c'est que leur œuvre, leur survie, et continue d'irradier en nous. C'est merveilleux. Et donc, oui, mais non, mais Barbara, elle peut pas mourir, c'est pas possible. C'est très bien comme ça, d'ailleurs.
Est-ce que ça aurait pu être une voix de radio, Barbara?
Oui, elle en a... Bah, de toute façon, ça aurait pu être une voix de radio parce qu'elle détestait la télévision. Bon, elle détestait son image, elle détestait son corps. Elle n'aimait pas aussi le... caractère un petit peu trop marketé, marketing, show business de la télévision. Oui, bien sûr que ça aurait pu être une sensationnelle voix de radio, parce que dans la voix de radio, bah déjà c'est la voix qui prime, et puis par rapport aux médias radio qui est beaucoup plus intime que la télévision, on peut écouter sa radio, on lit au creux de l'oreille avec les écouteurs. Oui, donc la voix murmurée se prêtait tout à fait à la radio. Elle en a fait beaucoup, hein. Elle a refusé des dizaines de propositions d'interviews télévisées et d'émissions en tout genre. Mais à la radio, elle a moins refusé. Elle avait ce rapport intime à l'auditeur, elle retrouvait ce rapport intime.
Je me tourne vers mes deux autres invités qu'on n'entend plus quand même. Est-ce que vous avez envie de réagir?
Je parle beaucoup, j'avoue.
Mais moi aussi, je monopolise un peu la parole, donc je me tourne vers nos deux invités. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce que dit Sébastien Bost?
Bah moi, je trouve ça passionnant, mais voilà, je pourrais encore entendre plusieurs heures. Enfin, je trouve ça, sa vie passionnante. Hein. Moi, j'ai rien à rajouter de plus.
Moi, je trouve ça tout aussi passionnant, tout autant que le cours, mais bon, c'est toujours trop court, un cours. Mais j'aime beaucoup, moi aussi, l'image de Barbara, l'image de la Barbara militante, comme avec justement sa chanson sur Si d'amour. C'est le titre,
oui. Oui, Si d'amour, ou Si d'amour à mort. Oui.
Si d'amour à mort, toutes ces actions qu'elle faisait de façon totalement désintéressée, parce que c'était elle, en fait, elle. Elle donnait, et en fin de compte, c'est aussi c'est une femme, mais c'est aussi une femme militante dans justement tout ce qui était l'épidémie VIH-SIDA, et c'était très beau de comment elle le faisait. Je me souviens justement d'un d'une lettre ou d'un livre d'un jeune qui avait refusé de se donner la mort, qui avait grâce à Barbara justement.
Ah oui.
Et c'était juste magnifique. Et en fin de compte, on se rend compte de la force qu'a cette femme dans que ce soit aujourd'hui, de son vivant, maintenant. Et je pense qu'elle a toujours autant de force.
Alors, elle aimait pas le mot militante, hein, de même que chanson engagée, même si évidemment plusieurs de ses chansons ont un caractère engagé. Mais en revanche, bon, peu importe le terme, elle, ce qui est beau chez elle, c'est que elle a une conscience d'artiste, c'est-à-dire, certes, elle chante, elle sait chanter pour se réparer grâce au public, mais elle a redonné aussi. Elle a toujours été très attentive à la marche du monde, aux grands enjeux qui bouleversaient le monde dans lequel elle vivait, et elle a, dans l'ombre, dans la discrétion, soutenu beaucoup de causes. Alors, bien sûr, les trois ou quatre causes les plus connues, c'est bien sûr la cause de l'enfance d'abord, hein, les enfants défavorisés ou dans le besoin, ou handicapés, etc. Elle a aussi soutenu beaucoup la cause du sida. Alors elle disait, vous savez, moi, j'ai toujours parlé d'amour au public. Je lui ai écrit ma plus belle histoire d'amour. Donc on ne peut pas considérer son métier comme étant une histoire d'amour et ne pas se préoccuper d'une maladie de l'amour. C'est pas possible. Donc il faut réagir. Donc elle est allée dans les hôpitaux avec un médecin pour faire de la prévention. C'est aussi comme ça qu'elle est allée dans les prisons. Elle s'est investie énormément, elle a cédé les droits de plusieurs de ses chansons Act Up. Donc il y a aussi la cause, bien sûr, homosexuelle et LGBT qu'elle soutenait beaucoup. Oui, non, mais bien sûr, elle. L'oppression aussi, elle était aussi beaucoup pour une espèce de, comme ça, de réconciliation. Esprit de fraternité, c'est Göttingen, ben oui, à Paris, à Göttingen, les enfants, ce sont les mêmes. Mais aussi, c'est valable pour les peuples, mais c'est valable aussi pour les gens, c'est-à-dire, mon père, oui, d'accord, mon père, mais je lui pardonne, c'est mon père. Donc elle avait aussi cette force de fraternité, de pardon, comme une passerelle, un pont. Mais c'est vrai que, on a des anecdotes de gens qui lui écrivaient et pour lesquels son soutien a été déterminant. Bon, le soutien presque le plus, enfin le, disons, le témoignage presque le plus fort étant celui du metteur en scène Pierre Note, qui raconte dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « J'ai tué Barbara », rôle de titre, mais bon, j'y reviendrai peut-être après. Bon, il explique que, à l'âge de 20, 24 ans, était complètement perdu. Il n'acceptait pas son homosexualité, ses parents non plus, il se cherchait, il était un peu à la rue, enfin il était vraiment perdu. Il avait écrit un roman, un court roman, dont l'héroïne était une chanteuse, parce qu'il adorait Barbara, il l'avait prise un petit peu comme modèle. Il lui a envoyé, puis pas de réponse. Et puis un soir où il a voulu mettre fin à ses jours, il avait les 40 pilules de Temesta, et à moitié dans le coma, en s'effondrant sur le guéridon où était posé son répondeur, il a déclenché le répondeur et là il a entendu une voix qui lui a dit « Bonjour Pierre, c'est Barbara. Ben, j'ai pas pu vous répondre, j'étais en tournée, mais là je viens de trouver votre manuscrit, ben, c'est super, faut venir me voir, vous allez devenir un grand artiste. » Et il a trouvé la force de, je vais pas raconter les détails, mais de se faire vomir, d'appeler les pompiers, il a fait du coup, il est tombé dans le coma, on l'a ramené à la vie, il est revenu à lui, il est devenu un grand artiste. Mais des témoignages comme ça, il y en a beaucoup.
Voilà, que c'est beau d'entendre qu'il y a des gens comme ça sur Terre. Malheureusement, cette émission va déjà toucher à sa fin. Alors peut-être, avant de se quitter, est-ce que vous avez un livre sur Barbara à nous conseiller ? Est-ce que vous avez des choses à nous envoyer lire et écouter ?
Alors, écoutez, déjà moi, je vous conseille surtout d'écouter Barbara, écouter ses albums, écouter ses disques. Pour prolonger le plaisir, vous pouvez aussi lire ses mémoires inachevées, qui étaient en cours d'écriture au moment de sa mort, qui sont publiées au livre de poche, qui s'appelle « Il était un piano noir ». Mémoires interrompues. Il y a une très belle biographie aussi de Valérie Lehoux de Télérama, Portrait en clair-obscur. Il y a les livres de Marie Chex, intitulés tout simplement Barbara. Il faut aussi prendre connaissance de toutes les actions que mène l'association Barbara Perlin-Pimpin, avec le soutien des ayants droit de Barbara, gère son patrimoine artistique, multiplie les manifestations pour non seulement sauvegarder son patrimoine, mais la rendre bien vivante, toujours très actuelle et accessible.
Est-ce qu'on aura le plaisir de voir votre thèse publiée quelque part ?
Je l'espère, je suis en train de contacter plusieurs maisons d'édition. C'est mon souhait le plus cher.
Voilà, à bons entendeurs, et il nous reste quelques minutes. C'est à dessein que je me tourne vers Solène, et puisque nous avons parlé de Anne Sylvestre,
oui.
Je crois, Solène, que tu aimes bien jouer Anne Sylvestre. Est-ce que tu voudrais nous jouer
une chanson? Ah oui, comme ça.
Oui, voilà. Est-ce que ça t'embêterait de nous chanter une chanson d'Anne Sylvestre?
Oui, je peux. Alors, attends, parce que là, tu me prends de court. Alors, je la connais, c'est juste les accords, parce que, comme je vous ai dit, c'est pas...
Voilà, du coup, j'en profite pour lancer.
Oui, ça me dérange pas, mais ouais, tu me prends de court.
Attends, je lance un jingle.
Ouais, voilà,
lance un jingle. Un clin d'œil à quelqu'un qui nous écoute sûrement, je pense, et qui est également vraiment amoureux de Barbara.
99.5 FM, fait main, Radio Campus Tour International. Balado diffusion permanente sur le site de notre belle radio.
Quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit.
www.radiocampustour.com.
Voilà, c'était un petit clin d'œil à Alain Werner qui nous écoute peut-être, puisqu'il est lui-même amoureux de Barbara. Voilà, Alain, désolé, tu n'es pas le seul. Et voilà, il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, on espère te voir bientôt à la radio. Alors, Madame Solène, est-ce qu'on peut réclamer notre chanson d'Anne Sylvestre?
Je vais faire c'est une de mes chansons préférées de tous les temps même. Donc, ouais. Bon, je vais pas dire le titre parce que le titre est dans la chanson à un moment donné. Donc, je pense que vous la connaissez. Enfin, il y en a pas mal qui la connaissent. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Oh, j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses et encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre dans les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime leurs petites chansons. Même s'ils passent pour des cons. Oh, j'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils comprennent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà. C'était pas terrible, terrible. Désolé, hein. C'était frais au cours. Hein.
Oui, c'est vrai.
Je suis gouré dans les accords. Désolé. pour les musiciens qui nous écoutent.
Ça arrive à des gens bien. Merci en tout cas Solène d'avoir relevé le challenge de jouer cette chanson imprévue. Merci encore à Sébastien Bost, je le rappelle, hein, vous êtes l'auteur de la thèse Barbara, la morsure et la caresse, une esthétique de la déchirure. On espère bien voir ce travail publié pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Je rappelle aussi qu'on pourra entendre le podcast Potemkin, podcast queer racé. Voilà, c'est ton travail de stage, Antoine. Est-ce que tu veux nous rappeler quand on pourra l'entendre ?
Exactement, c'est mon travail de stage et on pourra l'entendre à 11h30 et à 16h à partir du 22 sur Radio Campus, puis en podcast sur radiocampustour.com.
Voilà, et Solène, est-ce que tu veux aussi nous rappeler qu'on a une émission spéciale qui arrive dans le cadre du festival Désir-Désir ?
Bah, jeudi prochain, jeudi 23 janvier, de 16h30 à 19h, en direct des cinémas studios. Et Plan Séquence sera aussi en direct de 19h à 20h, dans la tranche habituelle de l'émission, en direct des studios.
Voilà, donc je vous dis à tous, merci encore d'être venus ici à Radio Campus sur nos ondes. Voilà, et je vous souhaite à tous une excellente journée. Je rappelle que cette émission se retrouve en podcast sur notre site et qu'elle est rediffusée ce soir même à minuit. Bonne journée à tous à l'écoute de nos excellents programmes.